Et la question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est de savoir, est-ce que je suis d'accord avec Dieu lorsqu'il nous dit « je veux t'amener avec moi ». Quelle que soit la réalité dans laquelle nous sommes. Alors vous avez vu, hein, peut-être que pour certains ça ne leur parle pas tellement, ces chants qui bougent. Mais les perles qui ont été partagées par les jeunes, eh bien c'est quelque chose qui nous encourage à n'importe quel stade de notre vie. Et d'ores et déjà, tout à l'heure on va juste prendre un temps de prière devant Dieu et on va simplement lui dire là où nous en sommes, je suis d'accord pour continuer ce voyage avec toi. Amen. Et dans sa parole, Dieu nous invite à ce voyage, on va voir quelques versets. Je ne sais pas si il y avait deux voyageurs qui étaient en brousse, c'était en Afrique, et puis ils étaient en train de marcher, ils étaient sans armes. Puis à un moment donné, ils marchent, et puis d'un seul coup, il y a un lion qui vient devant. Et un des deux va ouvrir son sac, il prend les baskets, il commence à mettre les baskets. Et l'autre qui est à côté lui dit, mais ça ne va pas, tu penses vraiment que tu vas courir plus vite que le lion? Il dit, non, ça c'est sûr, mais je vais courir plus vite que toi. Ils n'étaient pas chrétiens en fait. Parce que s'ils avaient été chrétiens, ils auraient rendu grâce pour le repas pour le lion, certainement. Dieu nous invite à son voyage. Et dans Hébreux, je vais vous inviter, on va prendre la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Ce matin, ça va être une introduction sur une série de messages. On a été interpellés depuis un an et demi sur le fait que Dieu nous parle en tant qu'Église et en tant qu'individu de dire, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est là. Et il y a quelque chose qui est en marche. Et on va partager, c'est juste une introduction aujourd'hui, et on va continuer plus tard sur ce qui peut nous empêcher d'entrer dans ce voyage avec Dieu, et puis ce qui va nous favoriser pour entrer dans ce voyage. Dans Hébreux chapitre 11, c'est le chapitre de les exemples de la foi, de ceux qui ont eu confiance en Dieu. Et il est dit au verset 11, il est dit, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Christian nous parlait la semaine dernière d'avoir les yeux fixés en haut. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et la réalité, c'est que nous sommes des voyageurs sur la terre. Peut-être qu'on a une maison, on s'est installé, on a acheté, on a hérité, et c'est bien, c'est très bien. Mais la réalité, c'est que nous allons repartir vers notre Créateur. Et quand on va passer devant notre Créateur, le Père, une différence va être celle-ci. Si sur la terre, alors que je suis en voyage, alors que je chemine, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, alors ce n'est pas mes mérites, ce n'est pas parce que j'aurais beaucoup prié, parce que j'aurais eu beaucoup de diplômes, mais la réalité c'est cette confiance, cette réalité de la confiance de ce que Dieu s'est approché de nous et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait de la vie éternelle. Au seuil de partir et d'arriver à destination auprès de notre Père, la réalité, c'est de savoir non pas combien j'ai pu gagner d'argent, combien j'ai pu avoir de maison, et c'est très bien, combien de diplômes, mais ce qui va faire une différence, c'est ceux et celles qui ont osé croire que Christ Jésus est mort à notre place, qu'il a porté notre péché, qu'il a pris notre culpabilité, et que ce matin, je peux m'approcher vers le Père au travers du sacrifice de Christ, au travers du sang de l'agneau. Et même si je suis chrétien depuis un moment, même si je me sens pas à la hauteur, même si je sens que je n'ai pas fait juste, mais ce matin, comme il a été dit par Thomas, on n'a pas besoin de regarder à ceux qui sont autour de nous. La réalité, c'est que nous sommes devant Dieu et que le chemin est ouvert et que nous avons juste besoin d'y marcher, d'avancer, d'aller plus loin avec lui. Dans ce texte, il est dit que ceux qui ont la foi, ceux qui se sont confiés dans leur Sauveur et Créateur, il est dit, ils ont reconnu. Dans le grec, c'est adopté, ils ont saisi, ils ont accepté, écoutez bien, d'être des étrangers sur cette terre, des voyageurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Xénos, pour étranger, c'est celui qui, en réalité, est un hôte, un invité. Ceux qui ont eu la foi ont eu besoin de reconnaître, d'accepter, que la réalité, bien sûr, est sur la terre, mais qu'il y a une réalité dans le ciel. Qu'il y a une réalité terrestre, qu'il y a une réalité dans le temps. Combien allons-nous vivre sur la terre ? J'espère pour vous que vous allez vivre et que vous allez être centenaire. Mais même 100 ans face à l'éternité, ce n'est pas beaucoup. Et la réalité, c'est cela, c'est ceux qui ont eu la foi, ceux qui, dans la parole de Dieu, sont comme des exemples qui nous encouragent dans notre chemin de dire, mais n'abandonne pas, continue ce voyage avec Dieu. Parce que la réalité, c'est qu'à un moment donné, nos yeux verront celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés. Et il va nous peser non pas sur ce qu'on aura fait, mais d'abord sur cette foi, sur cette confiance que Christ a tout accompli, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il revient bientôt. La réalité, elle est là. Et lorsqu'il est dit qu'ils ont reconnu, c'est parce qu'ils ont été obligés de faire ce travail sur eux-mêmes, parce qu'on a l'impression qu'on va être là pour l'éternité. On a l'impression que ce qu'on fait, on va le faire pour toujours. On a l'impression que quand on voit nos enfants, on se dit, et quand ils sont petits, on se dit, ils vont toujours rester petits. Mais j'ai une nouvelle pour nous ce matin. Je ne sais pas si elle est bonne. Mais la réalité, c'est que, bon, ils grandissent. Ils grandissent. La réalité, c'est que, ben, on prend un peu d'âge. Et même si la Bible nous dit qu'on renouvelle nos forces comme l'aigle, on rajeunit comme l'aigle, la réalité du temps, elle est quand même là. Et la question pour nous, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, c'est de dire, est-ce que je suis d'accord pour continuer ce voyage avec Dieu ? Est-ce que je continue de dire, Jésus, tu es dans mon bateau ? Ça, c'est une chanson, hein. Les jeunes vont comprendre. Mais quelque part, ça, c'est une réalité. Et ces hommes et ces femmes, vous vous rendez compte, il est dit qu'ils ont continué de faire confiance à Dieu malgré le fait qu'ils n'ont pas eu tous les exaucements. Et ça, c'est une dimension de plus dans notre voyage. La dimension, c'est de dire, soit parce que j'ai prié que je n'ai pas été exaucé, soit parce que je me sens fatigué, j'ai été déçu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de s'arrêter. Mais la réalité, c'est de dire, si je dis oui à Christ, si je dis oui et que je m'engage avec lui, alors le Saint-Esprit vient et nous rappelle que nous sommes des résidents temporaires sur la terre. Et que c'est notre Dieu qui aura le dernier mot. C'est notre Dieu qui va se lever le dernier. Et c'est très enthousiasmant de dire, je reconnais que même si je prie pour la ville, même si je m'engage, même si on est là, on est bien les pieds sur la terre, on fait des études, on travaille pour le bien de la ville. La réalité, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans étranger, il y a étrange. Et dans étrange, c'est quelqu'un qui est hors du commun, qui sort de l'ordinaire, qui est inhabituel. La culture du royaume de Dieu, elle est différente. On est au travail, et tiens, c'est bizarre, on ne critique pas les autres comme les autres. Tiens, c'est bizarre, on vole pas des choses, voilà, on n'emprunte pas des choses d'une manière permanente. Quand j'étais à l'armée, on était en poste de garde, et puis les gars regardaient des films porno, c'était vraiment petit, hein. J'avais que la chambre pour aller, donc du coup j'ai été dans la chambre, et à un moment donné, on était 24 sur 24, quand on était de garde, et il y en a un qui rentre dans la chambre, mais qui était en colère. Il vient et me dit, mais pourquoi tu ne regardes pas avec nous? C'est parce que tu es chrétien, hein? Mais il était en colère. Il était en colère. Je lui dis, écoute, t'as l'ordre de faire ce que tu veux. Moi, je fais ce que je veux. Jean 15, 18, c'est Jésus qui dira, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. Or, quand Jésus dit cela, il va même envoyer ses disciples, l'Église, dans le monde pour annoncer l'Évangile, pour être sel et lumière. Il n'est pas question de se retirer. Mais le point, c'est que nous sommes dans une autre culture. Nous avons quelque part la pensée de l'éternité qui est là et nous avons surtout une autre autorité qui gère notre vie. J'ai envie de nous demander, qui gère ta vie? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que c'est ton épouse? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ton travail? Qui gère ta vie? Est-ce que c'est ton problème? Qui va influencer ta décision? Certains disent, mais vous ne savez pas les problèmes que j'ai, vous ne savez pas les déceptions que j'ai eues. Comment je peux faire confiance à Dieu? Comment je peux faire confiance et vivre aussi dans une église? Vous savez quoi? J'ai décidé que ce ne seront même pas mes émotions, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mes limites, ce n'est pas les uns et les autres, mais je décide que c'est Dieu qui décide pour moi. Je décide de m'aligner avec Christ. Peut-être que c'est difficile, peut-être que des fois on a un prix à payer, des fois c'est compliqué parce qu'on va à contre-courant, mais la réalité c'est que dans ce voyage-là, Dieu nous invite à être celui qui conduit notre vie. Et lorsque Dieu nous parle et que je m'aligne sur ce qu'il me demande, à ce moment-là ça marche, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est tout puissant, Dieu nous aime, sa parole est la vérité. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc si ça ne fonctionne pas dans notre vie, si on ne voit pas l'action de Dieu, si on ne voit pas des choses, ça veut dire quoi? C'est pas la faute de Dieu. C'est pas la part de sa parole qui est la vérité. C'est juste moi qui ai besoin de dire à Dieu, montre-moi, éclaire-moi, je suis d'accord avec ce que tu veux faire. Et quand bien même je n'ai pas l'exaucement, eh bien, je vais continuer à lui faire confiance. Parce que je réalise que je suis en voyage. Je suis un résident temporaire. Et c'est ce que Dieu nous dit en tant qu'Église. Nous sommes en transition. Regardez Philippiens 3 et les versets 18 à 21. Philippiens 3, 18 à 21. Paul va parler de ceux qui sont ennemis de la croix. Il va même en pleurer d'ailleurs. Ennemis de la croix, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir parler des chrétiens qui suivent Jésus, qui suivent Dieu pour les bénéfices qu'ils peuvent avoir. Parce qu'il y a une bonne communion, parce qu'il y a eu la multiplication des pains, on a bien mangé, c'était vraiment super, parce que je suis bien accueilli, parce que les chaises sont confortables. Parce qu'il y a de la moquette par terre, il y a du chauffage en hiver. Alors je viens et je viens aussi à l'église. Mais quand il s'agit de prendre sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu a tout accompli. pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions vivre cette vie de proximité avec lui et que notre vie ait un sens dans le service. Vous savez, c'est extrêmement important parce que j'ai eu l'occasion de... On fait à l'heure actuelle ancien programme découverte, cours croissance. Et je me souviendrai toujours de ce frère qui est revenu, il avait 75 ans. Un frère qui s'était converti il y a 50 ans, qui avait fait des expériences. Et puis, il avait une belle maison, il avait une vie, on pourrait dire, tout tourné en réalité. Et ce frère est venu me voir et il était en pleurs. Quelle humilité. J'étais pasteur dans une autre église. Il vient et il se met à pleurer. Il dit, je réalise que je connais Dieu, j'ai donné ma vie à Christ. Et c'est vrai que je me suis engagé un temps et je l'ai abandonné. J'ai voulu d'abord faire mes affaires, le travail, la famille, la construction, toutes des choses qui peuvent être légitimes. Et ce frère arrive en fin de course, de voyage sur la terre. Il est conscient que son voyage va continuer avec Dieu dans le ciel. Et il réalise qu'il a perdu vraiment beaucoup de temps. Et ce frère, on a eu, je lui dis, mais venez, et puis on va avoir ce cours. On aurait dit un jeune converti, 75 ans, il était en feu, il a reconnu l'amour de Dieu, il a revécu l'amour de Dieu, le feu du premier amour. Il avait des témoignages, mais il avait une humilité. Et c'est vrai que les mois qu'on a passé avec lui, mais j'étais là, je me suis dit, mais c'est superbe. On aurait dit un jeune de 20 ans qui venait de se convertir. Et il a retrouvé ce feu du premier amour. Extraordinaire. Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous nous engageons? Quel est notre temps? Il a été aussi question de gérer aussi les réseaux sociaux, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui est indispensable, prioritaire, important? Pourquoi nous investissons dans l'œuvre de Dieu? C'est extrêmement important. Alors, ici, il est dit, au verset 20 de Philippiens 3, il est dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, une attente, une conscience qu'il y a une vie après cette vie terrestre. Écoutez bien verset 21, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Ça, c'est la parole de Dieu. On va être transformé, conforme à son corps glorieux. C'est superbe, hein? Je ne sais pas si j'aurai des cheveux à ce moment-là. Je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être besoin de perdre un peu de poids. Je ne sais pas comment on va être transformé. Il me tarde. Hein. Franchement, on va être transformé. C'est excellent. Ils sont conscients qu'il y a une transition. Une transition. Nous sommes en transition. Bien sûr qu'on parle de la transition en ce qui concerne notre Église. Il n'est pas simplement question d'un changement de pasteur. Il est question de passer d'une Église qui se fait plaisir, une église, pas que c'est le, mais ça pourrait être le cas, la tentation d'être une église un peu club où on n'a pas envie d'être dérangé, à une église qui fait plaisir à Dieu. Une église qui fait plaisir à Dieu, c'est une église qui s'engage dans le témoignage, dans l'engagement missionnaire, qui s'engage dans le respect des frères et des sœurs, du corps de Christ. C'est une église qui va s'engager, qui va se lever, qui va se lever, qui va s'engager, qui va servir, qui va se mettre à disposition. C'est le bon moment pour prier, dans cette période de transition, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous savez, on était à Mulhouse, il y a eu des temps d'onction, des temps de la présence de Dieu. Et c'était extraordinaire parce que c'était facile, je dirais. 2000 jeunes qui sont à fond pour Dieu, mais je dirais, même si on n'est pas jeune, l'essentiel, comme je ne sais plus qui parlait de ça, je crois que c'est Carly tout à l'heure, même si l'équipe de louanges fait des fausses notes, surtout à la guitare, c'est pas très grave, parce qu'on est là tous ensemble. Tous ensemble pour ouvrir notre bouche, notre cœur, pour adorer Dieu, pour lui dire tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es le maître. Vous savez, des fois, mais pas ici, hein, des fois on a l'impression qu'on est à The Voice et qu'on est en train de jouer puis que les fauteuils sont retournés. Et puis quand ça marche un peu, qu'il y a un peu d'onction, hop, on sent, voilà, le fauteuil se tourne, on se dit, ouf. Mais vous savez quoi, c'est pas ça en fait. Il y en a qui me regardent en disant, ils racontent quoi. La réalité, c'est qu'on est tous ensemble pour louer, pour adorer, pour élever Dieu. Amen. Et quand on fait ça, alors Dieu est réjoui. Et Dieu règne et siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. La véritable question, c'est pas de savoir si les chants nous plaisent, c'est pas de savoir si finalement le groupe a été parfait. La véritable question, c'est est-ce que ma louange ce matin, est-ce que mon cœur réjouit le cœur de Dieu ? Mais pas seulement le dimanche, le lundi quand je suis au travail, quand je suis dans mes études, quand je suis dans ma famille. La véritable question, c'est est-ce que je réjouis le cœur de Dieu ? Est-ce que je le réjouis ? Nous sommes toutes et tous en transition. Quand on est nouveau, on a un chemin de sanctification pour devenir conforme parfaitement lorsque Christ va revenir. On peut passer d'être centré sur nous-mêmes à être centré sur Christ. On peut passer de l'immaturité, de l'adolescence spirituelle, où on n'est pas complètement encore un adulte, on n'est plus un enfant. Selon l'OMS, est-ce que vous savez comment ils définissent l'âge des adolescents ? Adolescent, ça veut dire celui qui est en train de grandir. C'est plus un enfant, mais c'est pas encore un adulte. À votre avis, quels sont l'âge, le créneau d'âge que définit l'OMS pour les adolescents ? C'est de 10 à 19 ans. Ils définissent cela. Des fois, à 40 ans, des fois, certains sont pas encore sortis de l'adolescence. Spirituellement, c'est pareil. Ça veut dire qu'on est en chemin. L'adolescent, c'est moi, je sais mieux que les autres et je cherche mon identité. Je vais confronter l'autorité. Je vais dire, mais non, les autres ont pas raison. Moi, j'ai raison. Et d'un seul coup, je deviens adulte, mature. J'ai toujours raison. Non. Mais quelque part, je comprends que Dieu a tellement de patience à mon égard. Vous savez, j'ai été touché à Mulhouse. À un moment donné, dans la louange, faut pas que je pleure, mais j'ai vu vraiment le Seigneur. J'ai vu la croix, j'ai vu le sang qui coulait. J'ai eu cette image, j'ai eu cette vision. Et d'un seul coup, j'ai dit, mais oui, je le sais avec ma tête. Mais d'un seul coup, dans mes entrailles, cette réalité que Dieu a vraiment payé un prix cher pour que je puisse le connaître, pour que je puisse le servir, pour que je puisse l'honorer. Et c'est vrai que la Bible me dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données par-dessus. Des fois, on se dit, ça c'est l'immaturité, c'est l'adolescence spirituelle, de dire, j'ai des besoins, Seigneur, comble mes besoins. C'est pas faux de prier comme cela, c'est pas faux. Mais si je suis sur ce chemin de croissance, je vais dire à Dieu, me voici pour te servir, pour t'honorer. Et vous savez, quand on fait cela, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'est pas un Dieu ingrat. Il s'occupe de nous. On sent la faveur. Et ça, c'est vraiment formidable. Et je voudrais juste finir. C'est l'introduction à d'autres messages. Quand on parle de transition, en ce moment, on parle de transition. Hier, on était à l'Assemblée Générale. Salomé nous a parlé de départ, transition, voyage, destination. Et en tant qu'Église, eh bien, Dieu a une destination nouvelle pour nous. Ça fait un an et demi qu'il nous dit cela. En tant qu'Église et pour chacun d'entre nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce temps de transition, on est, vous savez, les différentes étapes qu'il peut y avoir dans une église, comme dans d'autres organisations d'ailleurs, mais l'église de Christ, c'est Christ la tête et le corps de Christ, c'est nous. Il se passe qu'à un moment donné, on est dans une organisation, on est dans un fonctionnement, on est dans quelque chose qui tourne. Et à un moment donné, dans cette organisation, au sens, je dirais pas seulement technique, mais biblique, à un moment donné, on perçoit qu'en tant qu'Église, on arrive à un changement, à une fin. Au passage, je voudrais juste vous dire que, en ce qui nous concerne, on n'avait pas le plan de partir. Hein. Ce n'était pas une stratégie. C'est juste Dieu qui nous a parlé et qui nous a parlé de plusieurs manières, et notamment au travers de pasteurs suisses. Donc on est arrivé au stade de dire, on aime l'Église. On ne sert pas 10 ans dans une Église sans l'aimer. Si on ne l'aimait pas, ça fait longtemps qu'on serait parti. Mais quand Dieu parle, comme à chacun d'entre nous, même si c'est compliqué, même si ça amène un certain deuil, on a le choix de dire, je m'aligne avec ce que Dieu dit, ou est-ce que je résiste ? Soit je peux suivre la pression de ceux qui sont autour de nous, ou de dire, je vais décider de suivre Dieu. Dans cette période d'organisation qui arrive enfin, il y a comme une période de deuil, d'automne, tentative de l'ennemi pour nous faire perdre notre motivation, beaucoup de choses qui se passent. Et d'un seul coup, on est dans cette transition, on est dans ce temps où c'est la désorganisation. Il peut y avoir des changements d'ordre professionnel. Vous arrivez à la fin d'un travail, vous formez pour entrer dans une autre activité. Dans cette période-là, c'est un peu la désorganisation, dans le sens qu'on perd quelque chose, on n'est pas encore complètement entré dans le nouveau, et on se sent un petit peu perdu. Mais dans cette désorganisation, dans l'Église, Dieu est en contrôle. Dieu maîtrise cette désorganisation si elle vient de lui. Si elle ne vient pas de lui, c'est plus compliqué. Et dans cette période, c'est un peu un no man's land. Vous savez, ça c'est à Transvision, c'est pasteur Éric Dufour qui nous a parlé de cela dans les temps de transition. C'est un peu par exemple Paul, l'apôtre, qui est en prison. Vous vous souvenez de cet épisode ? On pourrait se dire, mais l'apôtre Paul s'est converti, implantation d'église, voyage missionnaire, il se retrouve en prison. Il se retrouve en prison. Il sert Dieu, il se retrouve en prison. Pourquoi Dieu permet-il que Paul se retrouve en prison ? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il est coupable de quelque chose ? Il est seul coupable d'avoir servi Dieu et d'avoir obéi à Dieu. Et des fois, quand on obéit à Dieu et qu'on s'aligne avec la volonté de Dieu, des fois, on a l'impression qu'on est dans une prison. Et l'ennemi vient et nous dit, tu vois, tu veux servir Dieu, tu veux t'aligner, tu veux faire la volonté, tu veux être libéré de tes addictions. Et voilà, tu es encore pire qu'avant, quoi. Mais Paul est en prison et c'est là où il va écrire des épîtres, notamment l'épître aux Philippiens. On peut être dans une période de transition, on peut être dans une période où finalement on se sent en prison, mais ça n'arrête pas Dieu. Et encore une fois, je peux être dans cette attitude de victime, de dire je suis en prison, je fais plus rien. Bah, écoute, hein, servi Dieu, je suis en prison, non mais. Paul va rester focus, il va rester concentré. Et parce qu'il reste concentré, qu'il reste un cœur droit devant Dieu, il va recevoir l'inspiration pour écrire des lettres qui encore aujourd'hui nous bénissent. On a Moïse qui est appelé. Il a cet appel, il est à la cour de Pharaon, il a la meilleure université du monde de l'époque. Et voilà qu'il est prêt pour libérer le peuple d'Israël. Il se lève et il tue un homme. On le sait, il va fuir dans le désert. Organisation, dans le désert, c'est la désorganisation. C'est le moment où on va désapprendre. Toutes nos certitudes vont s'effondrer, ou une bonne partie. On est sûr de cela dans une période, et d'un seul coup, il y a une transition de Dieu, il y a un changement, et là, toutes nos certitudes vont s'écrouler. Quand on est arrivé en Angleterre, ça a été une période où j'avais l'impression que je ne savais plus, après 15 ans de ministère, j'avais l'impression que je ne savais plus comment servir Dieu. Et je suis vraiment sérieux. La seule certitude que j'avais, la seule, à un moment donné, c'est que j'étais sauvé. C'était la seule. Tout le reste, ma tête était à l'envers. J'étais en pleine période où je savais plus où j'habitais. Et là, soit on continue avec Dieu, soit on s'arrête, soit on s'énerve, soit on prie, soit on se décourage, soit on va chercher le courage auprès de Dieu. Et Moïse, heureusement, est dans cette période de désorganisation, il y a le buisson ardent. Et le buisson ardent va remettre Moïse sur la troisième phase. C'est un nouveau départ. C'est une réorganisation et c'est une métamorphose. Moïse n'aurait jamais été celui qu'il a été, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas bien vécu ce temps de désorganisation. Et nous sommes dans ce temps-là, où Dieu nous dit à chacun, recherche ce temps de buisson ardent, recherche ce temps de rencontre avec Dieu. Ce n'est pas le temps de raconter des bêtises, ce n'est pas le temps d'avoir des raisonnements, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier, de bénir mon frère et ma sœur. C'est le temps de bénir l'Église. C'est le temps de bénir les jeunes. Amen. C'est le temps de prier pour les responsables. C'est le temps, en tant qu'Église, qu'on capte véritablement la bonne pensée de Dieu. Ce qui est normal, c'est que dans ce temps de désorganisation, il y en a certains qui ne sont pas contents, et c'est normal, parce qu'on était contents avant, parce que ça marchait bien avant, ou alors parce que ce n'était pas trop inconfortable avant. Mais dès que ça commence à changer, je ne suis pas content, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. D'autres sont très contents au contraire, et se disent « vite, vite, que ça change, parce que je n'étais pas content avant ». C'est normal aussi. Et il y a comme un brouhaha, je ne sais pas si ça se dit encore ce mot, des fois je dis des expressions, les jeunes me regardent. Il y a une espèce de brouhaha dans l'Église, ce qui est normal. Il y a de l'anxiété, il y en a qui veulent aller vite, il y en a qui veulent passer vite cette transition. La réalité, c'est que nous sommes toujours quelque part dans une transition, géographique, dans l'âge, dans la maturité, etc. Si je n'accepte pas ce temps de transition, je vais passer à côté d'une réalité, c'est que les temps de transition sont des temps de formation. Parce que Dieu est fidèle et dans ces temps de transition, eh bien Dieu reste Dieu, Christ reste le chef de l'Église et je peux toujours avoir cet accès auprès de lui pour lui dire « Seigneur, je suis en vrac, je ne comprends plus, mais toi tu dis quoi ?» C'est le bon moment pour lui demander. C'est le bon moment pour lui redire notre confiance et notre foi. C'est le bon moment pour dire « Me voici dans cette nouvelle saison, dans cette intersaison, quel est le rôle que tu veux que je tienne ?» Et il y en a plusieurs parmi nous. Dieu dit, et nous l'a dit, qu'il allait nous envoyer des personnes avec des onctions différentes. Est-ce que nous sommes prêts à les accueillir ? Est-ce que nous sommes prêts à vivre le plan de Dieu ? Est-ce que nous sommes prêts à impacter les nations ? Vous allez dire, impacter les nations, déjà, il faut que je m'occupe de ma vie. Mais déjà, s'il y a une personne qui est touchée par la grâce de Dieu, une personne à qui je témoigne et qui rencontre Christ, eh bien, je touche les nations. Parce que si tout le monde se dit ça, alors ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont être touchés. Amen. Amen. Alors, je vais nous inviter à fermer nos yeux et on va juste prier, si vous voulez bien. Et on est là devant notre Seigneur. Et peut-être que certains ont peut-être des voyages différents. Peut-être certains ici ne connaissent pas encore Christ comme leur sauveur. Et Dieu vous invite à entrer dans son bateau, à être réconcilié, à connaître et à découvrir l'amour du Père. Et si c'est votre cas, le chemin est ouvert ce matin. Pour d'autres, c'est peut-être une période d'anxiété, une période de colère, une période d'incompréhension, période où vous vous battez aussi avec les addictions. Mais peu importe l'étape dans laquelle vous êtes, peut-être que vous servez Dieu et qu'à un moment donné, vous vous dites, mais Seigneur, quelle est la saison dans laquelle je suis ? J'ai besoin de forces nouvelles, j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être touché, j'ai besoin d'être guéri par toi pour être opérationnel, pour te servir. Quel que soit là où vous en êtes, je vais simplement, nos yeux sont fermés, et je vais simplement vous inviter à vous lever à votre place et on va prier ensemble. Moi, je suis déjà debout, mais je me lève parce que je sais que je suis en chemin et que ce trajet, ce voyage, j'ai besoin de rester concentré, de dire à Dieu, mais Seigneur, me voici, tu es mon Père, tu es notre Père. Merci pour le Saint-Esprit qui est dans ma vie. Merci parce que Christ, nous déclarons aussi ce matin que tu es la tête de l'Église, que tu aimes l'Église et que tu vas l'amener dans tes plans parfaits. Seigneur, merci parce qu'au travers de ton serviteur Yinka, tu nous as donné cette vision de cet ange qui tape et qui frappe sur l'estrade. Et il nous l'a donné alors qu'on était dans le bureau, et quand il nous l'a partagé, il y avait une onction de Dieu qui était là et qui nous attestait que Dieu aime son Église. Et peu importe ce que l'on voit avec nos yeux, Dieu aime son Église. Et que ses plans parfaits vont se réaliser avec ou sans nous. Et aujourd'hui, c'est le temps de monter dans ce bateau. Et quel que soit ce que je peux penser, quels que soient mes sentiments, eh bien, je décide, si c'est le cas pour vous, vous pouvez le dire dans votre cœur à Dieu, je décide de monter dans ce bateau parce que c'est aujourd'hui, la décision que je prends aujourd'hui, même si je ne ressens rien, Dieu l'a enregistré, il l'a déjà enregistré pour ceux qui l'ont prise quand on était avec Inka. Et dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, notre destinée, notre chemin va être différent selon que l'on s'est aligné avec ce que Dieu nous dit, ou que on soit resté juste en disant « ça ne me parle pas ton histoire ». Père, tu vois la réalité de nos cœurs. Et je prie, Seigneur, que ta volonté qui est dans le ciel soit faite sur la terre. Je te bénis et nous te bénissons pour tous les bienfaits. Merci pour ce qu'on a entendu, Seigneur, dans la vie de ces jeunes, pour ceux qui ont témoigné, pour ceux qui n'ont pas témoigné. Je te remercie pour ce que tu fais dans chacune de nos vies, dans la vie de mes frères et sœurs. Et nous voulons déclarer ensemble, tu es notre Père et tu es la tête, c'est toi qui nous conduis et c'est toi qui vas nous amener à destination. Seigneur, non pas notre volonté, nos pensées sont éloignées de tes pensées, mais nous sommes d'accord pour dire, Seigneur, nous voulons nous aligner avec toi. Merci Père pour ce renouvellement puissant de force, de courage et que notre cœur soit bien disposé devant toi. Et que surtout, nous soyons une église qui te plaise et qui t'honore dans le nom de Jésus-Christ. Amen.